Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal présenté par Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, désormais toute personne condamnée à la peine de mort en RDC sera exécutée. Le gouvernement a décidé de lever le moratoire sous la peine capitale. Cependant, abolitionnistes et rétentionnistes sont diamétralement opposés sur ce sujet. Une tête d'érosion menace la prison centrale de Kalemi depuis quelques semaines. Le directeur de cette maison carcérale lance un cri de détresse aux autorités de la province du Tanganyika. Il faut des travaux en urgence pour éviter le pire, nous dira Basile Kafuka Lumbwe. L'invité de ce journal est le chef de programme Axomine en RDC. Jean-Denis Soki parle des tout premiers centres de formation en la matière dans le pays, mis en place par le service de la lutte anti-mine des Nations Unies, UNMAS. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Justice pour commencer. Désormais, toute personne condamnée à la peine de mort sera exécutée en République démocratique du Congo. Le gouvernement a décidé de lever le moratoire sous la peine capitale. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres du 9 février dernier, selon une note circulaire de la ministre de la Justice et garde des Sceaux. Dans cette note adressée le 13 mars dernier au chef des institutions, Rose Mutombo demande l'application de cette décision, d'en assurer une large diffusion auprès de leurs offices et en donne les motivations et dispositions juridiques. Le condensé de cette décision avec vous, Jeff Ngoy.
En exécution de cette décision, la peine de mort consécutive à une condamnation judiciaire irrévocable intervenue en temps de guerre sous l'état de siège ou d'urgence à l'occasion d'une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l'ordre public ou encore pendant toute autre circonstance exceptionnelle sera exécutée. Conformément à certaines dispositions de la loi évoquant les infractions susceptibles de la peine capitale, notamment l'association des malfaiteurs, la trahison, l'espionnage, la participation à des bandes armées, participation à un mouvement insurrectionnel selon le code pénal livre 2. Le crime de guerre, crime de génocide et crime contre l'humanité, disposition relevant du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. Également la désertion à l'ennemi, rébellion, le complot militaire, refus d'obéissance et celle de marcher contre l'ennemi, vol, détournement et destruction méchante sont autant d'infractions évoquées par le code pénal militaire. C'est depuis 2003 que la peine de mort n'était plus exécutée en RDC, quoique prononcée par les juridictions surtout militaires, à cause justement du moratoire qui vient d'être levé. Pour la ministre de la Justice, ce moratoire était malheureusement aux yeux des infracteurs, comme les Kuluna, un gage à l'impunité.
Au chapitre des réactions abolitionnistes et rétentionnistes de la peine capitale sont diamétralement opposées sur ces sujets. C'est un recul grave contre les droits de l'homme. Une page noire pour les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes à ce 21e siècle où les nations du monde sont en train d'abolir la peine de mort. C'est la réaction d'un abolitionniste de la peine de mort, président de la chaire congolaise des droits de l'homme. Maître Eloi Moubilansem propose aux parlementaires de voter une loi qui puisse abolir de manière définitive la peine de mort en RDC. On l'écoute.
C'est vraiment une page noire pour la République. Nous, en tant qu'activistes des droits de l'homme, nous proposons qu'on quitte les moratoires pour l'abolition totale. Et cela à travers une loi adoptée au niveau de l'Assemblée nationale pour que nous soyons au standard des autres États qui sont en train de promouvoir les droits de l'homme. Puisque la peine de mort, c'est le contraire des droits de l'homme. Et c'est contraire à notre Constitution qui sacralise la vie. C'est un recul inacceptable en matière de droits de l'homme. C'est une violation de nos engagements internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la République démocratique du Congo.
En revanche, les rétentionnistes de la peine de mort pensent qu'on doit absolument et totalement exécuter la peine de mort qui n'était que suspendue. Selon ce groupe, le pays connaît des rébellions à répétition à cause de l'impunité et l'exécution de la peine capitale, qui est un moyen dissuasif de commettre toutes sortes de crimes graves. Fini donc le Kuluna qui tue les gens, fini la trahison des militaires et félicitations au président de la République. Réagit ainsi Maître Riffin Louko, avocat au barreau de Kinshasa Matete.
Notre pays connaît une situation spécifique. Il faut rétablir l'exécution de la peine capitale parce que la peine capitale n'a jamais été abolie dans notre code pénal. Dans notre pays, la peine capitale est toujours prononcée depuis plus de 50 ans par notre justice civile et militaire. Pour nous, rétentionnistes, et vous vous rappelez, l'ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, l'avait réclamé à l'époque également, que non, chez nous ici, la guerre ne prendra jamais fait si la peine capitale ne peut pas être appliquée, parce qu'il avait remarqué lui aussi que tous ceux qui tirent les gens là-bas sont des repris de justice plusieurs fois, donc des récidivistes. Ceux qui font les rébellions, ce sont les mêmes personnes. Il faut donc féliciter le président de la République qui rétablit l'exécution de la peine capitale pour que ces gens-là qui trahissent le pays continuellement, on n'ait plus besoin d'eux, et que donc fini les criminels qui défient le pays continuellement, fini les Kulun à condamner.
C'est un dossier signé Jeff Ngoy. Au Nord Kivu, pendant ce temps, cela fait près de 10 jours, ce vendredi, depuis l'occupation par les rebelles du M23 de l'importante mine de pyrochlore de Loueché dans la chefferie de Buito en territoire de Rutshuru. Ce site, attribué par le gouvernement congolais à la société minière du Kivu, Somi Kivu, n'est pas exploité depuis plusieurs années. Mais des inquiétudes à la suite de cette occupation par les rebelles se multiplient de plus en plus. Des détails avec Bernard Denyangui.
C'est depuis la nuit du 6 au 7 mars dernier que cette localité de Loueché, près de Kibirizi, en groupement Mutanda, est passée sous occupation des rebelles du M23. Si jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve attestant son exploitation, plusieurs acteurs locaux deviennent suspicieux. Ces sources parlent déjà de l'exploitation et du trafic frauduleux depuis quelques semaines du coltan et de la cassiterite du site de Rubaya, territoire de Masisi. Elle redoute ainsi une exploitation artisanale de ces minerais stratégiques de niobium qui renferme le site de Loueché. Il faut rappeler que la mine de Loueché est l'un des gisements de pyrochlore ou minerais de niobium les plus importants au monde. Cette mine est plus souvent impliquée dans des violences liées aux conflits armés dans la région. Kral Metal Congo avait acquis le site pendant la rébellion du RCD en 2000. Le site a changé plusieurs opérateurs avant d'être réattribué à la Somi Kivu vers 2009, mais jusqu'à présent, il n'est toujours pas exploité. Goma, Bernard Denyangui, Radio Okapi.
C'est désormais officiel, le contrat renégocié entre la RDC et les groupements d'entreprises chinoises a été signé par toutes les parties jeudi à la Cité de l'Union africaine, ici à Kinshasa, en présence du chef de l'État. Cette nouvelle version consacre une hausse de l'enveloppe destinée aux infrastructures qui passe de 3 à 7 milliards de dollars. Elle marque ainsi le cinquième avenant de cette convention de collaboration conclue en avril 2008 entre la RDC et les groupements d'entreprises chinoises, JEC. Cynthia Bachizina Bizana pour les détails.
La version New Look de cette convention, communément appelée contrat chinois ou encore contrat sicomine, rétablit un équilibre en le rendant réellement gagnant-gagnant à en croire les autorités de la RDC. Pour le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guissaro, environ 5000 km de routes seront construits sur une période de 15 ans. Il y aura 324 millions de dollars américains pour les infrastructures routières par an, ce qui permet donc de construire 400 km l'année. Le début des travaux est annoncé dans un délai d'un mois à Kinshasa, dans le Grand Équateur, au Kasaï Oriental, dans le Haut Lomami et au Lualaba. Parmi les projets retenus à Kinshasa, c'est entre autres une route qui quittera la commune de la Gombe pour longer le fleuve Congo jusqu'à l'aéroport international de Ndjili. Quelques exemples à l'intérieur du pays, il y a notamment la route Mbujimayi-Kabinda-Kindu-Bukavu-Goma ainsi que la route Akula dans le Grand Équateur. Cet avenant consacre également la participation de la RDC dans le capital de la Soko Hydro, barrage de Busenga, en raison de 60% de départ pour les Chinois et 40% pour la RDC.
Pour rappel, le chef de l'État avait fortement critiqué l'ancienne version du contrat jugé défavorable à la RDC. Dans la foulée, dans un de ses rapports publiés en février 2023, l'IGF mettait en évidence d'importants décaissements effectués en faveur des entreprises chinoises établies en RDC, mais de très faibles investissements en infrastructures au profit du pays. Et puis, le rôle des conseillers communaux sera déterminant dans le développement des différentes communes. Propos tenus hier jeudi par le président du conseil municipal de la commune du Lac, dans la ville de Kalemi. C'était à l'occasion de la cérémonie de validation du mandat des conseillers communaux. Yacine Moutouki au janvier est au micro de Paul Mounanga.
Nous sommes là prêts à travailler pour l'intérêt communal de la population qui nous a légué mandat. Le conseil communal est un organe délibérant qui délibère sur différentes matières. Et cette différentes matières, c'est en rapport avec le fonctionnement de la commune. Donc, nous sommes là pour délibérer les matières qui marchent de pair de développement de la commune. Nous sommes là pour chercher à développer notre commune. Ce n'est pas le président seul de la République qui peut descendre jusqu'à la base et développer nos communes. Donc, pour l'intérêt de la population, je vous donne un exemple. C'est que nous allons faire, les tâches sont multiples. Je vais vous dire que nous allons d'abord contribuer à aménager les voies qui sont déjà dans un état de délabrement. Et nous allons penser sur certains projets de développement communautaire pour l'intérêt de la communauté. Le message que nous devons lancer à la population est que cette population qui nous a placé confiance, que cette population travaille avec nous dans la franche collaboration, c'est la transparence qui doit exister et qui doit aussi nous caractériser.
L'Association pour la défense des intérêts du Kivu Bukavu, ADIB, salue la mesure du chef de l'État demandant à tous les procureurs de la République des VR à sanctionner tous les corrupteurs et les corrompus dans les processus de l'élection imminente des gouverneurs et des vice-gouverneurs des provinces. Déclaration du président du comité exécutif national de l'ADIB, Gustave Bagayamouku, hier jeudi à Kinshasa au cours de la table ronde des réflexions sur la problématique de la gouvernance et d'une paix durable face aux enjeux sociopolitiques actuels du Sud-Kivu. Occasion également pour les participants à ces assises de mettre les députés provinciaux et les hommes politiques du Sud-Kivu devant leurs responsabilités afin de privilégier et de mettre avant tout le développement de la province et les intérêts de la population. Je vous propose d'écouter le président de l'ADIB, Gustave Bagayamouké, au micro de Radio Kapi.
Les députés provinciaux, ils doivent aller dans le sens de chacun pour soi, de celui-là qui va défendre un bon projet, de celui-là qui va montrer qu'il connaît la province, de celui-là qui va montrer qu'il a une vision globale et globalisante de tous les problèmes qui causent la province aujourd'hui, qu'ils votent pour ce type-là, qu'ils mettent d'abord la bonne personne qui vient de la majorité d'entre eux de façon propre et réelle. Bah, naturellement, il faut d'abord être rassembleur, être redevable vis-à-vis de la population, très bon communicateur, mais surtout, il faut que ce soit d'abord quelqu'un qui connaît toute la province, quelqu'un qui doit avoir été au moins dans chacun des territoires, quelqu'un qui a l'éthique, qui a le moral et qui répond évidemment aux règles de bonne gouvernance. Après, il y aura une symbiose et à ce moment-là, nous pouvons peut-être espérer que la population va se retrouver un tas torpés. Le chef de l'État a convoqué Madame la ministre de la Justice et lui a demandé de pouvoir aller lui aussi s'organiser avec tous les procureurs de la République pour qu'on puisse traquer effectivement et réellement et toutes ces personnes-là qui se présentent comme des corrupteurs ou alors des corrompus, tout simplement. Donc, que ce soit les députés provinciaux, que ce soit les amis-là qui ont de la argent pour acheter. Nous devons dénoncer ce genre de personnes pour que pour une fois pour toutes nous puissions avoir au sud qui vous un gouverneur de province réellement élu par les députés provinciaux.
Une tête d'érosion menace la prison centrale de Kalemie depuis quelques semaines. Se confiant hier jeudi à Radio Kapi, les directeurs de cette maison carcérale craignent que cette érosion n'atteigne les murs de clôture de la prison si des travaux ne sont pas entrepris en urgence. Ainsi, il lance un cri de détresse aux autorités de la province du Tanganyika. Basile Kafuku Lumbwe, directeur de la prison centrale de Kalemie, est au micro de Paul Mounanga.
Il y a une forte érosion à la prison. Ça, c'est un grand risque. C'est une menace de 3 semaines à peu près. Vous savez, le pont est resté en l'air. Si vous essayez un peu de remarquer, l'érosion est en train d'attaquer maintenant la fosse septique. La fosse a été construite par la MONUSCO. Donc la MONUSCO a mis la main sur la poche pour construire cette grande fosse septique, aider aussi les détenus qui sont à l'intérieur de cette détention. Et il nous reste presque 10 mètres d'ici vers le mur de la prison centrale. À l'intérieur de la prison, il y a des bandits mais armés. Si le mur s'écroule, il y aurait une évasion vraiment catastrophique et les bandits vont se éparpiller au niveau de la ville de Kalemie. Et vous verrez, nous ne serons pas libres, nous, en tant que population de cette ville de Kalemie. Nous demandons à la hiérarchie de la province donc de trouver une solution rapide, puisque avec de fortes pluies, en tout cas, la fosse septique va partir et le mur va tomber bientôt là.
Actualité internationale.
Scène de liesse à Dakar hier jeudi soir. Après la libération des opposants Ousmane Sonko, le fondateur du parti dissous PASTEF et son fidèle lieutenant et candidat à la présidentielle du 24 mars prochain, Bassirou Diomaye Faye. Les deux opposants ont quitté la prison de Cap Manuel hier jeudi soir. Et puis, les Guinéens déçus par le gouvernement du nouveau Premier ministre Amadou Ba Houry, dévoilé mercredi dernier. alors que ce dernier avait promis le 8 mars que l'exécutif comprendrait au moins 30% des femmes. Elles ne sont finalement que 6 parmi les 29 ministres, soit 20% de l'équipe. Une déception pour des groupes et associations de femmes.
L'invité.
L'invité de ce journal est le chef du programme Action Mine en RDC, Jean-Denis Soki, parle du tout premier centre de formation en la matière au pays, mis en place par le service de lutte anti-mine des Nations Unies, UNMAS. Jean-Denis Soki s'entretient avec Sadiki Aboubakar.
Jean-Denis Soki, bonjour.
Bonjour, monsieur.
UNMAS vient de mettre en place un centre de formation à Beni. À quoi ça va servir concrètement?
C'est un centre de formation qui a comme objectif d'accompagner nos partenaires, la BNC et FARDC, dans le domaine d'intervention d'UNMAS. Plus précisément, en matière de la capacité nationale pour contrer les risques représentés par les engins explosifs improvisés. C'est-à-dire, dans ce centre, on va focaliser sur trois formations. Le premier, c'est sur l'investigation post-explosif. Il y aura aussi un module sur la recherche et détection des engins explosifs improvisés. Et le troisième, c'est sur l'éducation aux risques liés à ces engins.
Et quels sont les avantages à avoir ces centres? Parce que depuis toujours, UNMAS renforce les capacités, notamment des FARDC et des PNC dans la région des Beni.
Je pense que ce qui est différent par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est que cette fois-ci, on va voir ces centres au niveau national. Avant, on accompagnait nos partenaires nationaux, plus précisément les centres congolais de lutte anti-mine, en formation, mais à l'étranger. Alors, si vous voyez le coût lié à l'envoi d'un seul agent ou bien opérateur à l'étranger pour être formé par rapport au coût, ça coûte de faire venir un expert de l'étranger puis former, voilà comme on le prévoit, une quinzaine de personnes. C'est beaucoup plus rentable de maintenir l'expertise au niveau national et faire venir des experts de l'extérieur et en même temps appliquer l'approche de formation des formateurs. Donc, bref, c'est pour assurer une meilleure continuité des activités.
Donc, vous voulez dire que c'est le tout premier centre de formation en lutte anti-mine que UNMAS met en place en RDC.
Exactement. C'est ça en fait l'objectif. C'est d'avoir un centre d'excellence national. Et notre espoir, c'est qu'après le départ de la MONUSCO, que ces centres soient intégrés par soit l'armée ou bien la police et qu'on maintienne le même niveau très ambitieux par rapport à la qualité de formation, mais aussi au matériel, etc., qui vont avec la partie théorique.
Et quelle est l'opportunité de former les FARDC, la PNC ou d'autres partenaires en matière de lutte anti-mine dans la région de Beni particulièrement?
Beni reste quand même l'épicentre national par rapport aux accidents ou bien aux incidents liés aux engins explosifs improvisés. Les statistiques sont très claires. Au-delà de 80 ou même 90% d'incidents se produisent ici à Beni, raison pour laquelle on a proposé d'installer le centre ici. Mais je pense qu'à la longue, on va aussi essayer d'implanter une telle structure à la partie ouest du pays.
Je vois le centre est équipé de beaucoup de matériel didactique. Est-ce que cette formation qui paraît tout de même d'abord théorique, sera accompagné des formations pratiques? Si oui, dans quel cadre?
Effectivement, en fait, les matériels que vous avez vus à la salle de formation, d'abord, je dois vous rassurer que ce sont des matières inertes, donc il n'y a pas de charges explosives dedans. Ce sont des mortiers, des bombes, des roquettes, etc., qu'on a récupérées, mais dans lesquelles on a enlevé tout ce qui peut détonner. Donc, c'est pour quand même que les stagiaires voient comment les objets se présentent au lieu de se référer seulement aux matériel théorique dans les livres. Donc, ils vont toucher, ils vont sentir le poids que représentent ces matériels-là. Ils vont comprendre un peu leur composition physique. Alors, l'objectif qu'on a, c'est bien sûr de donner un certain minimum de maîtrise théorique, mais pour que ça ne reste pas que les théories, il faut l'appliquer. Alors, nous avons identifié un terrain qu'on prévoit pour la simulation des opérations. Donc, on va monter quelques huttes, on va en fait essayer d'imiter un village typique africain dans lequel on va placer des bombes, etc., que les stagiaires vont identifier et chercher à démonter. Donc, c'est de cette manière qu'on va appliquer la partie pratique de la formation.
Est-ce que la formation sera permanente, genre classique, ou bien ce sera une formation ponctuelle? Comment ça va s'organiser?
Nous allons le faire à plusieurs phases. Dans la première phase, on prévoit 15 stagiaires que les FARDC, plus précisément Sokola 1, va nous proposer. Il y aura une évaluation initiale pour voir si les candidats ont la base nécessaire pour suivre cette formation.
Est-ce que ceux qui vont passer par ces centres, après, on peut les considérer comme des experts en matière de lutte anti-mine?
Experts, ça serait un peu trop dit. Je pense que pour le moment, ce qu'on cherche, c'est d'abord de rendre les partenaires nationaux capables de se protéger eux-mêmes et aussi faire quelques interventions ponctuelles, quel que soit comme résidu explosif des guerres, qu'on soit qualifié pour le détruire.
Jean-Denis Nsoki, merci.
Merci à vous, monsieur.
C'était notre invité, le chef de programme Action Mine en RDC, Jean-Denis Nsoki, s'entretenait à Beni avec Sadiki Aboubakar. Et c'est la fin de ce journal qui a été supervisé par Noël Aluzitu Kabambi et mis en onde par Polydor Basunga. À vous, infiniment merci de l'avoir écouté.